Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si Accordiac, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean-Luc Roy.
Bonjour à tous, Motors en direct jusqu'à 14h. Salut Jean-Luc Roy.
Bonjour Louis Amar, bonjour à tous.
À la une, la F1, Grand Prix du Japon, remporté ce matin par Lewis Hamilton, le Britannique de plus en plus proche du titre. On y revient dans quelques instants avec Adrien Tambay et Lucas Vinoy. Au programme également le rallye, l'ancien pilote Guy Fréclin sera avec nous. Et puis la moto dans Radio Paddock à 13h45. C'est parti pour Motors, bienvenue à tous. Juste avant la F1, il y a un direct en cours en ce début d'après-midi, c'est le rugby, la suite de la 7ème journée du top 14, le match entre Castres et le Stade Français. Salut Wilfried Templier.
Salut Louis Amar. 5 minutes à jouer dans cette première période et le Stade Français très bien en place ici, j'ai le champion de France en titre, le Castres Olympique, puisque Paris mène 3-0 depuis la 24ème minute et une pénalité de Jules Plisson, alors que Rory Cocotte, le demi de mêlée du Castres Olympique, avait loupé une pénalité lointaine à la 3ème minute. Les conditions sont difficiles, il y a de la pluie, le ballon est glissant, donc c'est un duel d'avant, particulièrement un duel féroce en mêlée fermée, et le Stade Français est assez impressionnant depuis le début du match dans ce secteur là et pour l'instant il domine aussi territorialement. Il n'y a pas grand écart au score, mais le Stade Français fait très belle impression après sa défaite à domicile face au Racing, alors que Castres avait gagné à Toulouse. Mais c'est un duel de haut de tableau, ça mon cher Louis, et c'est vraiment du jackpot pour la victoire. En cas de victoire d'une ou deux de l'autre équipe, eh bien elle serait deuxième du top 14 avant le match Montpellier-Toulon de 17h. On joue la 36e minute, 3-0 pour le Stade Français ici à Castres.
Merci Wilfried, on se retrouve pour la fin de cette première période. Et tout de suite, on part au Japon.
RMC Motors.
Gauche 90, 150 mètres, droite 10, droite 120.
Le briefing.
Adrien Tambay est avec nous de la Dream Team RMC Sport. Salut Adrien.
Salut Louis, salut à tous.
Et Lucas Vinoy en direct de Suzuka. Salut Lucas.
Salut Louis, salut Jean-Luc, salut à tous.
On rappelle rapidement le classement de ce Grand Prix du Japon tout à l'heure. Victoire donc de Lewis Hamilton devant son équipier Valtteri Bottas. Les deux Red Bull, 3e et 4e, Verstappen et Ricciardo. Raikkonen 5e, il faut descendre jusqu'à la 6e place pour trouver trace de Sébastien Vettel. Quant aux Français, Romain Grosjean est 8e, Ocon 9e, Gasly 11e, Leclerc a abandonné. On revient en détail sur leur performance dans quelques minutes. Jean-Luc, première question pour toi. Le titre s'est-il joué aujourd'hui?
Écoute, il y a de fortes vraisemblances. On va pas essayer de mentir et de cacher la réalité. Il est évident que là, le pire ou presque s'est produit pour Sébastien Vettel, déjà qui partait très loin puisqu'il avait loupé ses qualifs, un peu de sa faute et un peu de la faute de son écurie qui avait la mauvaise stratégie au mauvais moment. Et puis il faut bien reconnaître qu'en course, une nouvelle fois, il a confondu vitesse et précipitation en commettant plusieurs erreurs. Il a dû se lancer dans des remontées que l'ont permis sa Ferrari, mais alors que Hamilton évidemment a eu un parcours absolument lumineux, 67 points d'avance alors qu'il reste 4 grands prix. Évidemment, on va me dire mathématiquement, c'est toujours possible, mais là on voit vraiment pas comment. En plus, il est parfaitement secondé par Valtteri Bottas. Je crois que l'écurie argentée l'a marqué le maximum, 43 points. Donc c'est une voie royale qui s'ouvre devant Lewis pour son 5e titre.
On a revu, Adrien, ce dimanche un scénario qui pourrait s'avérer fatal pour la Scuderia dans quelques jours, c'est-à-dire à la fois une erreur stratégique de l'équipe le samedi et une erreur de pilotage de Vettel le dimanche.
Oui, c'est un travail d'équipe, mais dans le mauvais sens. On a eu hier une grossière erreur, ou en tout cas une prise de risque qui n'était pas nécessaire de la part de la Scuderia Ferrari en troisième partie de qualification, qui au final, Vettel aurait pu faire ce premier tour,
il n'a pas été assez bon
non plus sur ce premier tour-là. Il a fait une erreur, mais ça met Vettel en difficulté en qualification, ça le fait s'élancer de la huitième position, et du coup, aujourd'hui, il fait cette erreur, c'est de la pression. Précipitation et quelque part c'est très bizarre, hein, venant de la part de Sébastien Vettel, 4 fois champion du monde. C'est une faute presque d'inexpérience qui n'est pas acceptable à ce niveau-là, et il s'en défend encore de façon un peu bizarre, hein. Il a pas envie d'admettre qu'il a fait une erreur, mais elle est grossière, parce que quand on est un pilote de la taille de Sébastien Vettel, on juge les autres pilotes avec lesquels on concourt et lequel on va dépasser en fait. Et Max Verstappen Verstappen n'est pas un pilote facile à passer. Il a réussi à en passer plein, quasi au même endroit, mais ouais. les autres pilotes l'ont laissé passer, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas dans la même course. Là, Max Verstappen n'avait aucune raison de laisser passer Sébastien Vettel.
Jean-Luc ?
Oui, il était bien parti, il était bien remonté, en profitant des ennuis devant lui. Il était quatrième, donc quand on part huitième, c'était pas mal, hein. Mais là, rien ne l'obligeait à attaquer Verstappen, comme le souligne Adrien, de cette manière-là et à cet endroit-là. C'est clairement une faute de pilotage, il n'y a rien à faire. Il a endommagé de surcroît la monoplace de Verstappen, heureusement pas trop, puisqu'il a pu y prélever. Mais on aurait pu avoir peut-être une autre course, et c'est dommage pour nous, quoi, pour l'intérêt du championnat.
Et Verstappen venait, Louis, d'avoir une pénalité, décopé de 5 secondes
plus,
de pénalité au prochain arrêt. C'était un restart, donc après un safety car, tout le monde avait les pneumatiques un peu plus froids. Il a vu là une opportunité, mais c'est de la précipitation et ça aurait pas dû être.
Juste avant d'évoquer Lewis Hamilton, un mot quand même avec toi, Lucas, sur place de l'ambiance, parce que forcément c'est un Grand Prix extrêmement spécial. On sait que les fans japonais sont pleins de passion, de ferveur. Est-ce que tu as pu encore une fois le vérifier cet après-midi pour toi, ce matin pour nous?
Oui, c'est incroyable ici à Suzuka. Il y a un engouement complètement dingue. C'est à l'opposé en fait de l'Italie. C'est ce que je disais en matinale. C'est-à-dire qu'en Italie, vous avez une passion, une ferveur incroyable, mais presque euphorique. Et il n'y a pas de respect. C'est-à-dire que les gens sont complètement dingues. Alors qu'ici, c'est la passion, mais la passion mesurée. Les Japonais s'approchent doucement, mais sûrement de leurs pilotes, qui sont presque leurs dieux. Vous pouvez voir même des banderoles dans les tribunes, des banderoles qui supportent les ingénieurs ou même Bernd Highlander, qui est le pilote de la safety car. C'est pour vous montrer à quel point le Japon connaît la Formule 1 dans sa globalité.
Absolument, ambiance toujours particulière à Suzuka, où donc Lewis Hamilton, Jean-Luc, a encore triomphé en signant encore un week-end parfait, maîtrisé de bout en bout. Il y a eu 7 pôles hier et la course de ce matin.
Ah oui,
maîtrise. Maîtrise.
Cette pole qui était la huitième, mais je sais que tu le savais. Donc la huitième pole de la saison en 17 grands prix, c'est presque 1/2. Et puis là, effectivement, c'est la 9e victoire. Ça veut dire que l'écart se creuse non seulement en points, mais psychologiquement, puisque la dernière victoire de Vettel, c'est en Belgique, c'est vraiment loin. Et j'allais pas dire que c'était par hasard, mais par rapport à la reprise du championnat après le break, Vettel a été complètement en dessous, et les Ferrari qui ont perdu aussi, pour le décharger un tout petit peu de sa responsabilité, une partie de leur performance, parce que indéniablement à un moment c'était les meilleures monoplaces du plateau, ça n'est plus le cas. On l'a évoqué longuement ce matin avec Adrien, est-ce que c'est un problème de réglementation, est-ce qu'on était aux limites du règlement comme toujours, ce qui est normal en Formule 1, est-ce que là du coup on a dû rentrer dans le rang et perdu un petit peu de sa superbe? Oui, indubitablement, mais ça n'excuse pas les erreurs commises, soit en stratégie, soit sur la piste. Donc effectivement, malheureusement, il est en train de perdre le championnat. Et attention, on l'évoquait également hors antenne, attention à l'année prochaine, où donc le titre, vraisemblablement, il va le perdre, et va arriver effectivement un Charles Leclerc, porteur d'espoir au sein de la Scuderia.
Adrien, dans le mano à mano qu'il oppose à Sébastien Vettel, même si ça a été un peu à son désavantage en début de saison, Lewis Hamilton a quand même étalé une force mentale incroyable depuis quelques courses.
Bah oui, la force surtout de convertir les opportunités en points, de ne jamais faire d'erreurs. Quelque part, l'erreur de Sébastien Vettel aujourd'hui, elle est moins grosse que quand il avait l'opportunité de gagner les grands prix. Et les erreurs, il les a faites quand il avait la meilleure voiture à Hockenheim, à Monza, des erreurs gratuites où à chaque fois, il lâche 25 points. Vettel pourrait avoir 50 points de plus aujourd'hui, il aurait une moins bonne voiture. Parce que de toute façon, Mercedes s'est améliorée ou Ferrari est devenue moins bonne, mais dans tous les cas, il aurait que 16 ou 17 points de retard. Vettel en dessous mentalement cette saison.
Rapidement, messieurs, c'est la mi-temps à Castres, entre Castres et le Stade Français, Wilfried Templier.
Et c'est le Stade Français qui fait la loi. Je vous parlais de la bonne mêlée des Parisiens, de la domination, du bon jeu au pied. Il y avait 3-0 à la 24e minute. Jules Plisson a ajouté deux autres pénalités à la suite d'une mêlée dominatrice, et puis ensuite sur une chandelle mal gérée par Baye et Vaipoulou à la réception des Castrés en avant, faute au sol de Cocotte derrière, 40 mètres à droite des poteaux. Jules Plisson qui fait du 100% aujourd'hui, 3-3, et c'est très logiquement que le Stade Français sous la pluie mène 9-0 ici à Castres à la mi-temps.
Merci Wilfried, on te retrouve pour la seconde période. Retour à Suzuka avec toi, Lucas Vinoy, t'es toujours en direct du Japon. C'est quel Lewis Hamilton qui s'est présenté à ton micro après la course? Est-ce qu'il a reconnu avoir fait un grand pas vers le titre?
Il s'en cache un petit peu, ouais. Lewis Hamilton. Mmh. Il est un peu superstitieux, mais il veut pas trop le dire, mais il était souriant, il était presque euphorique, il le sait de toute façon, intérieurement, qu'il a fait un grand pas, et surtout qu'il a pris le pas psychologiquement sur Sebastian Vettel. Pour preuve, Lewis Hamilton a exactement le même nombre de points que l'année dernière. Sebastian Vettel a un point de moins cette année que l'année passée. Sauf que la Ferrari est beaucoup, beaucoup plus performante cette année que l'an passé, donc ça veut dire que Vettel a commis des erreurs, et ça, Hamilton, il le sait. Dans la guerre psychologique, les champions, on les voit aussi à ces moments-là. On peut parler de Valentino Rossi en moto. C'est ça, il a aussi su prendre le pas sur ses adversaires mentalement. Lewis Hamilton, il le fait sur Sebastian Vettel. Vettel a commis des erreurs à Bakou, à Hockenheim, en France, en Italie, maintenant au Japon. C'est beaucoup trop. Ils sont peut-être aussi rapides l'un que l'autre. Peut-être même Lewis Hamilton est peut-être même plus rapide que Sebastian Vettel. Mais surtout, Lewis Hamilton ne fait jamais d'erreur. Et ça, c'est la marque des très grands champions.
C'est vrai, Jean-Luc, on peut quand même insister là-dessus, parce que évidemment les qualités de pilotage de Lewis Hamilton, elles ne sont plus à démontrer. On peut en rajouter chaque semaine, mais je pense qu'on a déjà tout dit sur le talent du Britannique. En revanche, la façon qu'il a de dominer littéralement ses adversaires, que ce soit Rosberg quand c'était son équipier ou Vettel aujourd'hui, c'est peut-être ça le plus impressionnant.
Et oui, puis les chiffres parlent d'eux-mêmes. Tu lisais 80 pole positions, quand même, c'est le recordman, hein, en Formule 1. Il n'y a jamais eu mieux. 71 victoires. Il n'est plus qu'à 20. Tu vas me dire 20, c'est tellement énorme. Il y a plein de pilotes de Formule 1 qui n'auront jamais 20 victoires, mais oui. Mais au rythme où il les enfile un peu comme des perles, à une dizaine par saison, je ne sais pas combien de temps il va encore piloter, mais a priori, on voit pas très bien pourquoi la série s'interromprait. Enfin bon, encore une fois, il y a une redistribution des cartes, mais le règlement va être relativement figé encore pendant 2 ou 3 saisons. Donc, et puis je voulais juste citer ce petit mot lorsqu'il était en essai libre en FP3 de mémoire. À un moment, il parle à son ingénieur comme si personne n'écoutait, bien sûr, et il dit c'est formidable, je m'éclate, j'ai une voiture fantastique, je me fais plaisir. Et il avait encore écrasé la session, bah ça je peux dire, quand on doit le rapporter à Vettel quelque part, bim, ça leur met un petit coup sur le casque.
Adrien, tu confirmes ?
Mais je trouve surtout que Lewis Hamilton a fait un step supplémentaire cette année, et l'année dernière aussi, il a commencé à devenir encore meilleur, Lewis Hamilton, depuis que Nico Rosberg est parti, et je pense aussi que ces années avec Nico Rosberg lui ont appris pas mal ouais, de choses.
Il a vraiment franchi
un step. Bah, d'un point de vue de son approche, du travail qu'il doit accomplir pour, en plus de son talent, être irréprochable et faire le moins d'erreurs possible, continuer à aider l'équipe technique à développer une voiture. Enfin, en tout cas, on voit qu'il a un équilibre dans sa vie qu'il assume maintenant complètement. Toutes les critiques qu'on a pu lui faire dans le passé par rapport à ses frasques un peu en dehors des circuits, maintenant j'ai l'impression que tout le monde a accepté, et il est heureux. C'est quelqu'un qui maintenant, quand on le regarde, on le sent vraiment épanoui. Et heureux d'être là, même quand il se fait battre par Sebastian Vettel. Il accepte tout ça, il se remet au boulot, et bon, il a une attitude irréprochable. Dans le passé, Lewis Hamilton faisait des erreurs de temps en temps, et cette année, bah, c'est vraiment pour moi l'année la plus aboutie depuis qu'il est en Formule 1.
Bottas, donc deuxième derrière Lewis Hamilton. On peut signaler la troisième place de Max Verstappen, qui monte encore sur le podium, et Jean-Luc qui a encore signé une belle course.
Oui, une très très belle course. Max, effectivement, il était parti à cette position-là. Il a eu sa monoplace endommagée, on l'a dit tout à l'heure, par le contact avec Vettel, dans lequel il était totalement, lui, irresponsable. Hein. Il n'y est pour rien pour le coup, mais bon, il y a eu cet accrochage qui lui a fait perdre une partie d'efficacité. Et puis, sur la fin, en plus, il la joue intelligemment, compte tenu de la Formule 1 telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire les pneumatiques dans lesquelles il faut pas trop taper. On l'a bien vu dans les derniers tours, il s'est rapproché, il a tenté une pression. D'ailleurs, Bottas a fait 2 ou 3 erreurs, il a bloqué les pneus, il a commencé à abîmer ses pneumatiques, donc il pouvait être à sa portée, il y avait le dépassement de pilote moins rapide, il a parfaitement bien joué, stratégiquement aussi, peut-être qu'avec une monoplace intacte, la course n'aurait pas été la même non plus, ça veut dire que Vettel, il a peut-être un peu hypothéqué la fin de course de Verstappen.
Exactement, parce qu'il y a eu donc un accrochage entre ces deux-là, Ricciardo 4e, Raikkonen 5e, et donc, on y revient, Sebastian Vettel 6e, coupable d'une erreur, Adrien, alors qu'il avait signé une belle remontée au départ, encore une course plombée par sa faute finalement.
Oui, on l'a dit en début d'émission, mais ce qui m'étonne vraiment, c'est que Sébastien Vettel ose dire que c'est la faute de Max Verstappen.
Non,
après le Grand Prix, il ose dire que Max Verstappen, à chaque fois qu'il a un pilote qui se met à côté, lui ferme la porte. Mais comment ce champion du monde, ce 4 fois champion du monde, peut avoir si peu de recul en fait sur une situation où tout simplement il va dépasser un endroit où c'est pas dépassable. En tout cas, on peut pas dépasser une voiture de performance quasi similaire, parce que il n'est pas en train de dépasser une Force India ou une Williams. Ouais. C'est une voiture qui fonctionne très bien sur les pneumatiques, qui rentre très vite dans les courbes. C'est un pilote qui a un gros cœur, c'est Max Verstappen. C'est pas là qu'il va le dépasser. Et je sais pas, un grand champion normalement voit ses erreurs assez facilement. Je pense qu'il va à froid, il va comprendre, il va re-regarder ce qui s'est passé. Mais ça témoigne d'une frustration, et quelque part ça montre qu'il va pas de l'avant, et que ça va pas en s'arrangeant, parce que c'est en voyant les erreurs en face qu'on améliore.
Eh ben vous savez quoi, messieurs, on va l'écouter Sébastien Vettel revenir sur cet accrochage au micro de Lucas Vinoy.
Je ne pense pas que c'était une trop mauvaise course. Lors du premier tour, nous étions plus ou moins là, et après le deuxième départ, j'ai vu l'espace, donc j'étais à l'intérieur. Mais Max ne m'a pas laissé d'espace, et je ne pouvais aller nulle part. Après ça, j'ai réussi à remonter et à doubler l'ensemble du peloton, mais je n'ai eu aucun problème avec les autres pilotes. Parfois, il y avait de la marge, parfois moins. C'est sûr que pour le titre, cela va être difficile dans notre position, mais nous nous battrons le plus longtemps possible.
Lucas, c'est un Vettel énervé que tu as retrouvé face à ton micro tout à l'heure.
Énervé, je sais pas si c'est le mot, il était un peu désabusé, mais pas forcément énervé, comme si ce qu'il disait, il y croyait pas vraiment en fait. C'était assez étrange la façon dont il s'est présenté devant les télés et les radios. Il est un sentiment particulier, c'est quelqu'un d'assez blagueur, d'assez souriant, Sébastien Vettel. Et là je l'ai vraiment trouvé étonnant, pas comme d'habitude. J'ai l'impression aussi que Sébastien Vettel, il y a quelque chose qui le chagrine. Alors c'est une impression, hein, ce n'est pas un fait. C'est que chez Ferrari, il y a quand même beaucoup d'erreurs de stratégie. Il y a aussi des luttes de pouvoir en interne avec Mauricio Arrivabene, avec Binotto, et j'ai l'impression que ça rejaillit sur lui, que lui n'est pas en totale confiance, notamment au niveau de la stratégie. Il y a beaucoup d'erreurs et qu'il doit s'occuper de beaucoup de choses. Il a trop de choses dans la tête, Sébastien Vettel, et il n'est pas forcément concentré à 100% sur la course, comme peut l'être un Lewis Hamilton qui délègue tout le reste autre que son pilotage à l'écurie. Et c'est vrai que Vettel fait beaucoup d'erreurs. Chez Red Bull, il avait un sang-froid incroyable, notamment quand il était parti en tête à queue en 2012 lors de la dernière course au Brésil, où il jouait le titre face à Fernando Alonso. Et aujourd'hui, on ne retrouve plus ses qualités chez Sébastien Vettel. C'est très étonnant, c'est même presque déconcertant.
Tu confirmes, Jean-Luc, tu trouves aussi que ces erreurs à répétition de Vettel sont déconcertantes de la part d'un pilote comme lui ?
Bah écoute, je vais dire, c'est le syndrome Ferrari, peut-être la pression propre à la Scuderia, on l'a vu dans le passé, parfois, c'est l'équipe, évidemment, qui est l'objet de tous les regards. Alors, lutte interne, il a raison, bien sûr, Lucas, probablement, mais c'est pas nouveau non plus chez Ferrari, effectivement. Et puis, le propre d'un grand champion, d'un quadruple champion du monde, quand même, on parle de quelqu'un qui a enfilé les victoires, une époque, et les titres d'une manière remarquable, avec certainement la meilleure équipe de l'époque et la meilleure voiture de l'époque. Il faut le rappeler, ça aide toujours. Donc il a dominé son équipier, sauf peut-être un certain Ricardo, justement, que l'on retrouve là. Non, mais là, il fait preuve de fébrilité, il fait preuve de justement d'emportement. Il perd une partie de sa lucidité quand il est en difficulté. Et ça, bah, si on veut être champion du monde face à un Lewis Hamilton, Adrien l'a dit tout à l'heure, qui ne commet pas d'erreur, bah, c'est impossible.
Adrien, tu voulais ajouter un mot ?
Moi, je crois qu'on a besoin d'un coéquipier presque à sa hauteur, pour rester aiguisé, et je pense que Sébastien Vettel depuis quelques années n'a pas de coéquipier à sa hauteur, et je pense que ça va lui faire du bien d'avoir Charles Leclerc l'année prochaine. Voilà, c'est un sport de détail, et il a gardé sa rapidité. Sébastien Vettel, il est toujours très très rapide,
ça, c'est sûr.
4 fois champion du monde, il nous a fait des courses fantastiques cette année, mais il a besoin d'être dans le détail jusqu'au bout.
Deux Français ont terminé dans les points, il s'agit de Romain Grosjean et d'Esteban Ocon. On y revient tout de suite dans Motor, ce qui continue, bougez pas.
RMC Motors avec Motorsport TV. RMC 13h-14h Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
Avec Adrien Tambay, avec Lucas Vinoy, on est ensemble jusqu'à 14h. Dans un quart d'heure, on parle WRC avec notre invité, l'ancien pilote Guy Fréclin. En attendant, on repart à Suzuka pour parler de nos Français.
RMC Motors, le French's Corner.
Et oui, deux Français ont terminé dans les points ce matin au Grand Prix du Japon. Romain Grosjean a terminé 8e, Esteban Ocon 9e. On va commencer évidemment par Grosjean, qui globalement, j'en le crois, a parfaitement réussi son week-end. Des bonnes qualifs hier et une course sérieuse achevée donc dans les points. Aujourd'hui, il était quand même en dessous de la concurrence, forcément, et les pilotes devant lui sont meilleur, mieux armé.
Écoute, je le disais, mais c'est positif, hein. Ma remarque, elle l'est complètement. On pouvait se montrer déçu par son résultat final, parce qu'il partait cinquième, avec une excellente stratégie en qualif, puisqu'on n'oublie pas qu'il partait avec les pneumatiques soft, qui lui permettaient d'aller plus loin que les autres. Alors même, tu le disais, tu as raison, si la Haas n'était peut-être pas au niveau, évidemment, des Ferrari ou des Red Bull, mais on s'attendait peut-être à potentiellement un petit peu mieux. Or, il a dû céder face à d'autres équipes, d'autres adversaires. Malheureusement, c'est le cas de Pérez. Alors, je trouve que, je te dis, dans le bon sens, il peut se montrer un poil frustré parce qu'il pouvait avoir d'autres ambitions éventuellement pour ce Grand Prix qu'il avait magnifiquement abordé, encore une fois, grâce à une qualif exceptionnelle.
Et puis, vous êtes parlé avec Romain Grosjean?
Mais je te jure que non, mais bon. C'est mon analyse et c'était celle à la fin du Grand Prix.
Et bah, c'est aussi la sienne. On va l'écouter, voilà, Romain, au micro de Lucas Benoît.
On a eu plein de soucis techniques sur la voiture, dont le fait qu'elle n'aille absolument pas droit dans la ligne droite. Le restart du safety car virtuel, je suis à plus 0.3 par rapport au delta temps annoncé. Il est 2.4 secondes derrière, donc au mieux il peut être 2.1. Et au moment où ça s'éteint, où mon écran s'éteint, c'est-à-dire on repart, et il est à côté de moi, il me double. Donc ouais, c'est pour moi c'était pas normal. Je savais que s'il était derrière, j'avais une chance de le garder derrière. Après, à partir du moment où il était devant, rester dans les 5 secondes, c'était pas possible avec les pneus médiums qui avaient refroidi à ce moment-là. On n'avait plus le rythme et ce problème technique qui honnêtement, après 3 tours, j'ai cru qu'on abandonnait. La voiture était vraiment compliquée à conduire, donc je suis content d'avoir gardé Esteban derrière, content de marquer les points. Pas top que Renault en marque aussi, qu'on en marque pas autant qu'on doit. Après, le côté frustrant, c'est que les mecs devant peuvent faire 3 têtes à queue, ils finissent toujours devant nous, donc voilà.
La franchise de Romain Grosjean qui avoue quand même sa frustration, mais globalement, surtout compte tenu des problèmes techniques qu'il a évoqués, la performance est bonne, Adrien.
Totalement, il a fait ce qu'on attendait de lui aujourd'hui en course, même si Jean-Luc l'a très bien dit, on aurait pu espérer un peu mieux, surtout sans cet incident entre guillemets pendant le virtual safety car, ouais. Où il dit que ça devait voler une position clairement Romain.
Je pense qu'il l'aurait pas gardé plus tard.
Je pense qu'il l'aurait pas gardé plus tard et je pense que oui, s'il y avait vraiment eu un vol, hein, on sait que la direction de course a des systèmes GPS pour vérifier tout ça et je pense qu'on aurait pénalisé l'autre pilote. Donc voilà, aujourd'hui il prend pas mal de points. Romain et son coéquipier ne finit pas la course. C'est une bonne course, c'est rien d'exceptionnel, mais c'est une bonne course.
Lucas Vinois en direct du Japon. Lucas, il est soulagé d'une certaine manière, Romain Grosjean, puisque une petite chape de plomb pesait quand même sur lui jusqu'à sa confirmation pour la saison prochaine, qui est intervenue la semaine dernière. Tu l'as senti plus libre?
Oui, moi, il était plus libre déjà avant la semaine dernière, puisque il savait qu'il allait re-signer, ouais. Romain Grosjean depuis ses bons résultats à l'été. C'est vrai qu'il a attendu 9 grands prix quand même pour marquer des points. Romain Grosjean, depuis, il a retrouvé les points 5 fois. Donc depuis qu'il a lancé sa saison, Romain Grosjean est sur une bonne dynamique. Il est en Q3 quasiment tout le temps, 10 fois de suite, il me semble. Donc tout va bien pour Romain Grosjean. Après, c'est vrai que voilà, sur la virtual safety car, il s'est fait un petit peu piéger. Maintenant, peut-être que Haas doit travailler dans ce domaine. On sait que Force India, très régulièrement, les dimanches matins, toujours, on a des simulations, des briefings de Virtual Safety Car. Si Haas ne le fait pas, ils se sont peut-être fait piéger par rapport à ça, mais ça reste une bonne performance pour Romain Grosjean. C'est vrai que Haas aurait pu marquer un petit peu plus de points dans l'optique de la lutte face à Renault au classement constructeur.
Romain Grosjean, peut-être en partie libéré par sa prolongation chez Haas. Il y en a un qui ne l'est pas libéré. C'est Esteban Ocon, qui est toujours dans l'incertitude la plus totale concernant son avenir. Malheureusement, d'ailleurs, il y a de moins en moins incertitude, il faudrait que je me corrige, puisque on s'achemine de plus en plus vers un Esteban Ocon sans baquet pour la saison prochaine, mais mine de rien, il fait le taf, hein. Il est 9e, il est encore dans les points, il est sérieux, constant.
Écoutez, lui a été pénalisé, alors à mon sens, là aussi je me mouille, injustement, parce que à la sortie du drapeau rouge, on l'a reproché d'aller trop vite. Alors tu dis, bah oui, c'est dangereux, un drapeau rouge. Non, en fait, il y a tellement de mesures par secteur, par ciel, il a été 1,6 secondes, pour être précis, trop rapide dans un secteur donné. Et c'est parce qu'il croyait être trop lent, parce qu'il a entendu des bip dans le casque, tu vois. Il y a tellement d'informations qui parviennent au pilote qu'il a pensé qu'il était en deçà et en dessous justement de la limite. Donc il en a remis un peu et il est pénalisé pour ça. Bon, il n'y a pas eu de mise en danger des commissaires ou de quoi que ce soit. Je pense que dans certains cas, on devrait faire preuve de plus de discernement. Et moi aussi, je le dis toujours, quand on peut ne pas sanctionner, faisons-le. Les pilotes sont trop sous surveillance maintenant et ça enlève une bonne partie du sens de l'attaque, de la spontanéité. Alors voilà, faut faire la différence entre vraiment la situation dangereuse et celle qui ne l'est pas, me semble-t-il.
Voici les mots d'Esteban Ocon au micro de Lucas Vinoy après le Grand Prix ce matin.
On a une voiture compétitive tout le week-end, on a fait un bon start. Je pense qu'on a récupéré le maximum de positions, mais bon, c'est pas suffisant avec la vitesse qu'on a. Vraiment, il faut qu'on arrive à se qualifier mieux, à pas faire d'erreurs et à voilà faire la course où est-ce qu'on a la vitesse, quoi. Parce que c'est clair que je suis pas satisfait du week-end.
Adrien, mine de rien, c'est pas facile de rester concentré, concerné sur la piste quand on a autant d'interrogations en dehors.
C'est la difficulté de ce sport, du sport en général, mais de ce sport encore plus, où chez Esteban, on a fait le boulot qu'il fallait faire toute l'année, enfin depuis qu'il est en Formule 1 en fait. On se met dans une position sportive de mériter vraiment un débaqué du devant de la grille, et au final, ben l'opportunité n'arrive pas, ou en tout cas le timing est pas bon aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est la dure loi de ce sport. Il faut se remettre en question dans tous les cas à chaque course, à chaque virage, à chaque tour, et c'est ce qui fait très bien. Donc voilà.
Et juste un mot en chiffres, bien sûr. 49 points pour lui, 53 pour Pérez. Il est 11e au classement général provisoire du championnat. Ce serait un scandale, moi je le dis une nouvelle fois, s'il n'a pas de baquet en 2019. Et pourtant on y va, comme tu l'as dit.
Esteban Ocon qui sera ce soir 19h45 l'invité de Jean-Christophe Drouet de François Pinet d'ailleurs ce soir, pardon, dans le RMC Sport Show. Il t'a accordé, Lucas, un entretien. Esteban Ocon, comment tu l'as senti quand tu l'as interrogé? C'était en début de week-end. Il est abattu, il est triste, Esteban Ocon.
Non, il a une force mentale qui franchement est impressionnante quand on voit les résultats qu'il fait alors que son avenir est plus qu'incertain. Non, il n'est pas déçu, il est un peu parfois, ça dépend des moments. Il y a des moments où on le sent un peu plus abattu que d'autres, il y a des moments où il relève la tête. En fait, il est déçu de la Formule 1. Il le dit, et je reprends ses mots, il est déçu de la Formule 1, du sort que lui réserve le sport qu'il chérit tant, puisque lui estime, et il a raison, il prouve tous les week-ends en tout cas qu'il a raison, lui il estime qu'il a sa place, il fait la meilleure saison de sa carrière, il est 4 points seulement derrière Sergio Pérez. En qualification, il domine outrageusement le Mexicain. Donc pourquoi ne pas avoir de baquet? Parce que l'argent a pris une place très très importante, et le pire c'est que c'est Lance Stroll qui va le remplacer. Non pas que le pire soit que Lance Stroll le remplace, mais c'est son meilleur ami dans le paddock. Et il ne lui en veut pas, il reste ami, ils ont toujours gardé une bonne relation, ils en parlent, ils en discutent. Franchement, parfois, chapeau Esteban Ocon.
Est-ce que ça adoucit un petit peu l'affaire que ce soit son meilleur ami qui le remplace, ou est-ce que ça joue pas, Adri?
Je sais pas si c'est son meilleur
ami. Dans le paddock, ils sont vraiment très potes.
Je crois que Esteban, c'est bien cacher ses sentiments aussi, et je pense que profondément il doit être très déçu et très très frustré, mais je pense qu'il a une force mentale et il arrive à garder la tête haute et positive. Il sait que c'est comme ça que ça fonctionnera le mieux. De toute façon, il peut rien y changer, et quand on parle un peu de ses sautes d'humeur, ou en tout cas les moments où on a l'impression qu'il est plus en forme que d'autres, à mon avis, doit avoir des bonnes nouvelles un jour et puis des mauvaises, des plus mauvaises le lendemain. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour Esteban, c'est quelque part la première fois dans sa carrière qu'il a quand même un moment doute, difficile, parce que jusqu'à présent il a quand même été soutenu par les bonnes personnes et il a quand même eu une voix assez royale. Ouais. Et là, il réagit plutôt bien, puisque si c'est la première fois, c'est bien managé.
Écoute, on en a vu d'autres revenir, il doit s'accrocher à ça en se disant, je suis après tout sous contrat avec la meilleure équipe de Formule 1, avec Mercedes, ils ne peuvent pas me laisser tomber. Alors c'est vrai qu'il a dû être tenté peut-être de sauter. On a dit que c'était un handicap paradoxalement pour aller chez Renault par exemple, même si l'affaire Ricciardo s'est faite au dernier moment, mais peut-être pour aller chez McLaren aussi. Maintenant, quand on regarde les performances de McLaren aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait
vraiment y aller,
Écoute, là aussi il y a deux solutions, et je sais qu'Adri est évidemment du même avis quand on parle de Williams, où il y a encore une possibilité. Moi, je suis un peu partagé, j'avoue, entre le fait d'avoir un baquet, même si c'est un mauvais baquet, on y va carrément, ou ne plus en avoir pendant un an pour mieux revenir. Seul l'avenir le dira. C'est un peu une formule toute faite, mais bon.
Esteban Ocon dans le RMC Sport Show ce soir, 19h45. Un mot rapide, Jean-Luc, de Pierre Gasly. Gasly et de Charles Leclerc qui n'ont pas fini dans les points. Leclerc a même dû abandonner.
Oui, alors c'est dommage pour Charles qui là aussi avait une belle ambition, avait une monoplace performante, a fait un début de course extrêmement intéressant. Et puis il y a eu cet incident ou plus cet accident, même on peut dire effectivement qui aurait pu être dangereux avec Magnussen. Donc sa machine a été altérée. Donc il y a eu des problèmes pour Charles qui a dû repartir au combat puis qui a connu après un problème technique. Quant à Pierre Gasly, il était dans les points, il était dans le bon paquet. On avait les trois Français qui suivaient dans le top 10. Et puis bon, il se fait dépasser au dernier moment par là. On a perdu de la performance en course hein, parce que manifestement il n'avait pas tout ce qu'il fallait. D'ailleurs, on s'est excusé un peu chez Toro Rosso. On était dans le temple de Honda et c'est pas la réussite qu'on attendait par rapport surtout aux perfs qui ont été enregistrées en qualif, qui étaient vraiment excellentes. Ou pour une fois, Brendan Hartley avait trouvé la formule là aussi puisqu'il était carrément devant Pierre.
Jean-Luc, Adrien, vous restez avec moi pour la suite de Motors. On remercie Lucas Villenois d'avoir été avec nous. Merci Lucas, bonne soirée à toi au Japon.
Merci.
Salut Lucas. Rentre vite à Paris et puis repars vite aux États-Unis surtout parce que c'est là-bas dans 15 jours que se jouera peut-être le titre. Merci Lucas. 13h36, c'est reparti au rugby entre Castres et le Stade Français. Wilfried Templier.
Ah, c'est reparti. Il s'est passé beaucoup de choses parce qu'il y avait 9-0 à la mi-temps pour le Stade Français. Et si Rory Cocotte d'une pénalité a réduit l'écart pour les Castres 9-3 à la 44e minute, eh bien le Stade Français encore une fois sur une chandelle non récupérée par les Castres, eh bien a très bien utilisé ce ballon de récupération avec un ballon au large et un coup de pied à suivre très judicieux de Julien Delbouy, le trois quarts centre, et à la récupération c'est Arias qui va plus vite que les Castrés, qui marque le premier essai du match. Et si la transformation n'est pas réalisée par Jules Plisson, ça fait tout de même 14-3 pour le Stade Français, 11 points d'avance à la 51e minute, 11 points d'avance pour le Stade Français. Dans des matchs comme ça serrés sous la pluie, c'est un cumul assez important. Donc 14 pour Paris, 3 pour le Stade Français, 51e minute.
Merci Wilfried. Dans un instant, Motor se poursuit avec le rallye de Grande-Bretagne et le Grand Prix Moto en Thaïlande. À tout de suite sur RMC.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean-Luc Roy.
Avec Jean-Luc Roy, donc avec Adrien Tambay, Motors se poursuit en direct jusqu'à 14h. Vous avez ensuite rendez-vous avec l'Intégral Sport et avec Christophe Cessieux. Dans 10 minutes, la moto au programme de Radio Paddock avec notamment le Grand Prix de Thaïlande. Mais d'abord le WRC, rallye de Grande-Bretagne. Salut Benoît Boutron.
Salut Louis, salut à tous.
La dernière épreuve a été reportée.
Exactement, la dernière épreuve devait démarrer à 13h. Elle est retardée de quelques minutes puisque sur le parcours de cette dernière épreuve, il y avait une démonstration de moto et une des motos est tombée. Il y a eu un accident de moto, donc les organisateurs sont en train de régler ça et de voir surtout s'il n'y a pas de blessés. Et après cette dernière épreuve pourra se disputer. On rappelle que Sébastien Ogier est en tête, mais attention, seulement 3 secondes 1 d'avance sur Jari-Matti Latvala.
Pour parler de Sébastien Ogier et de ce rallye, on accueille notre invité, un ancien pilote de rallye, justement un ancien directeur d'écurie. Bonjour Guy Fréclin.
Bonjour.
Et merci d'être l'invité de Motors.
Oui, salut Guy, merci beaucoup. Je sais qu'on te dérange pendant ce week-end, mais c'est un plaisir de t'avoir avec ton analyse, ton expertise. Je rappelle que tu as été vice-champion du monde des rallyes, naturellement, en 1980, avec un certain copilote qui s'appelait Jean Todt, d'ailleurs, qui est président.
Il est devenu quelque chose, celui-là.
Oui. Bah, Guy aussi, il est devenu patron d'équipe, justement. Alors Guy, je te pose une question abrupte, on tourne jamais autour du pot. Est-ce que, enfin, la belle histoire, interrompue quelque temps, mais avec des titres de champion du monde à la clé, de Sébastien Ogier et Julien Ingrassia vers Citroën. Première question, est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que c'était inéluctable ce retour à la maison?
Bah évidemment, bien sûr que ça peut ne me faire que plaisir parce que Citroën n'a pas gagné de championnat du monde depuis quelques années et avec un garçon comme Ogier, c'est la seule façon d'y arriver.
Tu penses que la voiture vaut mieux que ce qu'elle, là aussi c'est un peu dur hein, ce que je dis, mais on y va carrément, et comme on va pas se parler longtemps, est-ce que la voiture mérite mieux et l'équipe mérite mieux que les résultats qu'on obtient actuellement?
Ah bah c'est évident, compte tenu des pilotes actuels, les pilotes ne sont pas au niveau d'un garçon comme Sébastien Ogier. Aujourd'hui, ce qui manque d'ailleurs dans le championnat pour qu'il soit vraiment très animé, c'est un quatrième pilote de pointe. Il y a trois pilotes de pointe, il y a Sébastien Ogier, il y a Tanak, il y a Neuville, qui ont encore quelques problèmes à régler au niveau de la fiabilité. Je parle des pilotes là, hein, pas des voitures. Les voitures sont à peu près toutes au même niveau. Il y aurait un quatrième pilote de pointe, ça ferait un championnat fantastique parce que c'est ce qui manque aujourd'hui. Et c'est malheureusement, on n'a pas ce quatrième pilote. J'ai vu que il y avait un jeune qui commence à pointer le nez là, qui me semble intéressant.
Ben il y a SAPK Lapi, hein, il faut, c'est pas facile à prononcer, voilà. Avec sa Toyota, il est pas mal. Alors Yarimati sur ce rallye-là est plutôt bien aussi, mais lui aussi on l'a vu rater quelques marches. Pour en revenir à Sébastien Ogier, est-ce qu'il ne t'a pas impressionné? Moi j'avoue que oui, clairement, avec la Ford hein, de M Sport l'an dernier, quand il décroche le titre, avec pas forcément la meilleure voiture, et on sait que l'équipe a des moyens beaucoup plus limités. Bien sûr.
Alors l'équipe a des moyens beaucoup plus limités, c'est vrai, mais ils ont aussi un très bon ingénieur. La voiture marche quand même bien, même si elle n'est pas tout à fait au niveau des autres. Aujourd'hui, la Ford n'est pas larguée. Et la preuve, c'est que Sébastien Ogier est devant aujourd'hui, de peu. C'est vrai, mais et j'espère que ça ira jusqu'au bout et j'espère qu'il sera champion du monde encore une fois. Parce que ça fait plaisir, ça devrait faire une 14e fois que ce soit un Français qui soit champion du monde d'affilée devant tous les Nordiques, c'est fantastique. Cocorico.
Guy Fréclin, ancien pilote rallye et l'invité de Motors en direct sur RMC, Jean-Luc.
Alors Guy, effectivement, si on prend un tout petit peu de recul par rapport au championnat du monde des rallyes, tu l'as dit, il y a de très très belles équipes, hein. Il y a Toyota qui est montée d'ailleurs en puissance rapidement, il faut le souligner, je pense que tu c'est seras vrai. Probablement hein, du même avis, parce que c'est vrai que on s'y attendait pas forcément, hein, soyons clairs, on a suivi tout ça, et là c'est du très bon boulot, dû au pilote, tu l'as souligné, mais dû aussi à l'équipe en elle-même. Il y a Citroën et puis il y a Hyundai. Alors Hyundai qui faisait figure de grand favori, qui est toujours parfaitement dans le coup, avec un Neuville toujours pas champion du monde. Alors là aussi, c'est vrai que la part du pilote et de l'équipage, et tu le sais bien, Guy, est très importante en rallye.
Bien sûr. Alors, Neuville est un garçon très rapide, mais il loupe souvent des marches, et malheureusement, il n'a pas encore la fiabilité qu'il faudrait pour être champion du monde. C'est son gros problème.
Là, pourtant, on a une bagarre à trois avec un Ottala qui est monté en puissance, lui aussi avec une bonne voiture, on l'a dit. Mais moi, j'avoue qu'il m'a surpris avec. Bon, il alignera pas la quatrième victoire d'affilée là, mais il a fait fort. Hein.
Ah ben, a priori, c'était. Je pense que ce rallye était vraiment taillé pour lui. Ouais. Il l'a prouvé. Il a été en tête pratiquement du début jusqu'à ce qu'il abandonne. Et malheureusement pour lui, parce qu'il pouvait être, aussi dans la bagarre pour le titre. Et c'est vraiment dommage.
Alors Guy, si on prend toujours encore un peu plus de recul et on considère le WRC par rapport aux autres disciplines du sport automobile, évidemment tu suis la Formule 1, tu nous écoutes sûrement de temps en temps, on est obligé parfois nous aussi d'être un peu circonspect par rapport au règlement. Le WRC a su lui évoluer avec des voitures extrêmement performantes en décor naturel, et là on a su prendre les bonnes décisions pour maintenir un niveau élevé et du spectacle.
En Formule 1, le problème est un peu différent. Aujourd'hui, on sait très bien que ça se double dans les stands et que c'est très difficile de doubler. Personnellement, moi, je pense que les voitures ont beaucoup trop d'appui et des pneumatiques beaucoup trop larges et trop d'adhérence. Ouais. Si on avait des voitures qui aient moins d'adhérence, moins d'appui, on aurait beaucoup plus de spectacle. Alors, après, c'est un retour en arrière, mais c'est aussi une volonté de le faire ou de ne pas le faire.
Alors, comme tu as participé à plein de compétitions et c'était le bonheur à cette époque-là, et qu'est-ce que tu penses de la démarche de Fernando Alonso? Je vais te parler du WEC, tu vois, dans un instant, et du Mans, auquel tu as participé brillamment à plusieurs reprises, puisque tu étais évidemment essentiellement un pilote de rallye, mais tu as touché un peu à tout, et c'est ça l'intérêt. Donc j'allais te parler de la démarche de Fernando Alonso, qui veut être un pilote complet, et on parle de lui évidemment à nouveau en IndyCar. Alors, il a dit que le rallye, justement, il trouvait ça trop difficile et trop risqué, tu vois, il l'a carrément dit.
Mais je crois que Fernando Alonso a compris que l'avenir de sa carrière n'était plus en Formule 1. Ouais. Je crois qu'il a plus envie de faire de Formule 1. Il a envie de passer à autre chose. Et je pense qu'il a raison de le faire. Et c'est maintenant qu'il faut qu'il fasse, en tout cas.
Alors, je parlais du WEC il y a un instant. Tu connais bien et tu suis également l'évolution du championnat du monde d'endurance. C'est vrai que la pointe de la technologie que met la CO, hein, l'organisateur, en avant. On parle maintenant de moteurs à hydrogène qui présente une solution pour l'avenir. Est-ce que là aussi, on n'est pas monté trop haut en gamme, peut-être dans la complexité des machines d'usine? Bon, avec les Toyota qui ont enfin, j'allais dire, réussi à s'imposer au Mans, mais y avait-il du monde en face, hein, c'est la question. Alors, ça ne diminue pas la qualité de leur victoire, tu le sais bien, toi aussi, mais quand même, j'allais dire, est-ce qu'on n'a pas poussé la machine un peu loin en endurance?
Alors là, c'est difficile à dire parce que Le Mans reste quand même une course qui est hors norme et qui pour le spectacle a aussi besoin de voitures hors norme. Alors après, qu'on soit allé trop loin, là. Après, ça se discute, évidemment, mais personnellement, je trouve que des voitures performantes au Mans sont importantes aussi. Ça a toujours été le cas. Alors après, on peut toujours essayer de revenir en arrière sur des GT, mais on n'aura pas, à mon avis, l'esprit du Mans, parce que l'esprit du Mans, ça a quand même toujours été des voitures très rapides, des voitures de pointe, avec des pilotes très rapides. Difficile de savoir ce qu'il faut faire au Mans en dehors de ces voitures performantes.
Alors, on va revenir au rallye, ce sera ma dernière question, le temps passe déjà très vite, Guy, qu'on surnommait le Grizzly, hein. Tu m'en voudras pas de rappeler ça.
Tout à fait. Tout
pour
à fait.
Plein de raisons, d'abord parce que tu étais une bête en course, et puis pour des caractéristiques physique sur lesquelles je ne reviendrai pas, je sais que ça va te faire marrer. Donc on revient au WRC. Je vais pas te demander évidemment ton pronostic parce qu'on a vu qu'il y a trois pilotes qui se tiennent dans un mouchoir de poche, mais est-ce que tu penses que, à condition qu'il l'emporte, là, évidemment Ogier peut encore le faire, un peu aligné un deuxième titre pour Ford dans la foulée?
Je pense qu'il a le mental pour le faire. C'est en tout cas le pilote qui a le plus d'expérience et le pilote qui a le plus gros mental. Donc, comme ça va se jouer au mental, il y a des grandes chances que ce soit lui, et je le souhaite.
Super.
Merci beaucoup, Guy Fréclin, d'avoir été avec nous.
À bientôt.
Merci Guy. Merci beaucoup. À très vite sur RMC. Dans un instant, la moto et le Grand Prix de Thaïlande dans Radio Paddock. Avant cela, petit détour par Castres, le rugby. Castres, Stade Français, Wilfried Templier.
Et la course poursuite qui continue entre les deux équipes, mais Stade Français qui est devant 14 à 6. Il y avait 14 à 3 tout à l'heure grâce à l'essai de Julien Arias à la 47e minute. Et bien là, sur une bonne mêlée des Castrais, et bien le Stade Français était pénalisé. Rory Cocotte, pas facile, hein. 40 mètres à gauche des perches. Il met cette pénalité de 2 sur 2 pour le buteur castré. Ça fait donc 6 pour le Castres Olympique, 14 pour le Stade Français sous une pluie qui redouble ici sur le stade Pierre Fabre. 61e minute, du suspense encore jusqu'au bout dans ce match, mais pour l'instant la petite avance très précieuse pour les Parisiens, la petite avance 14 à 6 pour le Stade Français face à Castres.
Merci Wilfried. 13h48 et tout de suite la moto.
RMC Motors. Radio Paddock.
Avec Benoît Boutron qui est avec nous.
Évidemment.
Petit mot d'ailleurs, juste, Thaïlande.
Ouais. Oui, c'est le direct, donc on le rappelait, le rallye de Grande-Bretagne. On a plus d'informations sur l'accident qui retarde la fin de ce rallye de Grande-Bretagne. En fait, sur la dernière bosse de la dernière étape de ce parcours de Grande-Bretagne, deux motos sont entrées en collision. Donc c'est apparemment un accident assez grave. Et c'est l'explication pourquoi cette dernière étape qui devait démarrer à 13h a été retardée. On vous donnera plus d'informations évidemment tout au long de l'intégral sport. Absolument. Mais pour l'instant, donc course retardée et Ogier en tête avec 3 secondes d'avance sur Latvala.
La moto donc et le Grand Prix qui s'est déroulé ce matin en Thaïlande, c'était la première édition.
Une édition réussie d'ailleurs en Thaïlande. On rappelle que la Thaïlande est un pays fou des deux roues, hein, évidemment.
Ah, oui, il y en a beaucoup.
Et
ils vont moins vite dans les rues encore.
Et c'est vrai. Ouais,
ils mettent pas de casque.
Avec un culte pour Yamaha d'ailleurs et qui a été assez performant, même si c'est Marc Marquez qui s'est imposé ce matin sur le Grand Prix de Thaïlande juste devant Dovizioso. Grand Prix incroyable, messieurs. Je pense que vous avez vu les images.
Ah, je confirme, quand on est arrivé ce matin incroyable à la rédaction, on avait Jean-Luc et Adrien, tous les deux scotchés devant la télé à regarder le Grand Prix.
Pour vous donner un ordre d'idée, au milieu du Grand Prix, on avait 8 pilotes en moins de 2 secondes. C'était une densité incroyable. Génial. Qu'on peut voir en Moto 3 et surtout une bataille pour la victoire jusqu'au dernier tour puisque Marquez était devant Dovizioso. Dovizioso est repassé devant mais Marquez, à la trajectoire, a réussi à reprendre l'avantage et a finalement s'imposé. Belle victoire donc pour lui. Il devance donc Dovizioso. Derrière, 3 Yamaha, Vignales, Rossi et Zarco qui réalise quand même une belle cinquième place. Donc on rappelle que c'est la 7e victoire de la saison pour Marquez. Il se rapproche d'un 5e titre de champion du monde. Encore une preuve que c'est le meilleur pilote moto actuellement.
Ah, c'est un phénomène, hein. On le soulignait effectivement avec Adri. Là aussi, il a un style extrêmement particulier, une lucidité à tout moment. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est presque le développement aux essais, la manière dont il parvient à régler sa machine et à aller tester ce fameux pneu avant qui est souvent le talon d'Achille des machines de Grand Prix. Parce parce qu'il rentre à une vitesse, en posant évidemment le coude, maintenant on a même dépassé ce stade, et en allant chercher la limite quitte à se vautrer, d'ailleurs en général il s'en prend une ou deux, mais à un endroit où il sait qu'il ne se fera pas mal, et donc après en course il sait, il doit s'arrêter, il est
à la fois insouciant et lucide. On a l'impression qu'il attaque outre mesure et il a pas peur de tomber, mais quand il sait qu'il doit plus tomber,
il a beaucoup progressé,
il part jamais à la faute, c'est fou.
Et on soulignera, même s'il termine quatrième ce matin, Papy Rossi quand même à 39 ans.
C'est troisième du classement général.
Il a tout donné dans le dernier virage.
Il a tout mis. Là, c'est le freinage. Tu sais, à moto, je sais pas pourquoi on appelle ça le freinage de trappeur. Ouais. C'est-à-dire, on n'a jamais su pourquoi, mais tu tentes tout, ça passe ou ça casse. Bon.
Donc, au championnat du monde, 77 points d'avance pour Marquez sur Dovizioso. Rossi est troisième à 99 points. Évidemment, Rossi va vouloir conserver cette troisième place et pourquoi pas aller chercher la deuxième. On peut également souligner que ce week-end a été marqué par la chute impressionnante de Jorge Lorenzo vendredi en essai libre. On a eu très peur pour lui. En fait, il y a eu un problème au niveau du frein arrière. Hein. C'est ça, je crois, Jean-Luc, un problème avec son équipe.
Il a fait un high side. Voilà, et high c'est side, la pire des chutes.
Parce un high side, c'est
high side. Ben, c'est quand l'arrière de la machine passe devant, se met à l'équerre. Et au moment de la reprise, le pilote, les suspensions s'affaissent puisque le pilote naturellement rend les gaz. Donc la roue arrière retrouve l'adhérence. Suspension se tasse et elle éjecte le pilote souvent à 3-4 mètres.
Très bien. Voilà, chute impressionnante. Pas de grosses blessures pour lui, heureusement, pas de fracture, une douleur quand même au poignet qui l'a empêché de disputer ce
Grand Prix. C'est un miracle quand on voit les images.
Un miracle. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on a regardé les réactions de Jorge Lorenzo qui a pu tranquillement regarder le Grand Prix depuis son lit d'hôpital. Et alors là, il a fait des bisous à tout le monde. C'est assez incroyable. Pourtant, il est fâché avec la terre entière. Mais son premier tweet, je vous le dis quand même, bravo à Marc Marquez qui a été très intelligent dans le final et bravo également à mon coéquipier Dovizioso qui n'a rien lâché. Ouais, deuxième tweet.
C'est un usurpateur.
Deuxième tweet encore plus surprenant et félicitations aussi aux pilotes Yamaha, Maverick Vinales et Valentino Rossi. Alors là,
des sacrés médicaments.
Là, il est sous ses
Il est shooté, c'est sûr. Parce qu'on connaît sa capacité à se brouiller avec ses équipiers. Évidemment, avec Rossi, il était brouillé. Et puis avec Marquez, ça va pas durer longtemps. Hein. Je pense qu'ils partiront pas avec un point.
Donc Marquez en tête du classement général.
Ah oui, facilement. On le disait, oui, effectivement, 77 points d'avance. C'est un peu comme Hamilton en Formule 1. C'est une question de jour et de grand prix, on va vite le voir champion du monde a priori.
D'ailleurs, par parenthèse, je sais pas ce que vous en pensez messieurs, mais c'est assez cruel pour la F1 quand s'enchaînent les grands prix auto et moto finalement dans la même matinée, parce qu'on voit tout de suite la différence de spectacle et de suspense, ça saute aux yeux. Hein.
Écoute, c'est une évidence que là aussi la moto a su évoluer dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on a fort heureusement, et à chaque fois je touche du bois en disant ça, amélioré spectaculairement la sécurité des pilotes. Moi j'ai connu malheureusement une époque où plusieurs étaient grièvement blessés ou plus par saison. Là, grâce à l'équipement effectivement, les casques, les combinaisons, les protections, et puis grâce au circuit, parce que le danger à moto c'est de heurter un obstacle, alors qu'on pense que ces engins développent 300 chevaux, c'est quand même incroyable, et qu'on met ça au sol sur une carte de crédit, avec certes, c'est une carte de crédit qui transmet la puissance au sol, avec des vitesses de pointe qui sont équivalentes à celles des Formule 1, sur certains circuits c'est 350 km/h, donc c'est absolument incroyable, mais la part du pilote dans le résultat final est tellement importante, et je réponds à ta question, avec un règlement qui a su évoluer également dans le bon sens, pour moi c'est clairement la voie à suivre pour la Formule 1, retrouver du spectaculaire, redonner de la place aux pilotes, et je pense que si on y arrive, alors bien sûr on peut pas voir autant de dépassements par tour, il faut être lucide qu'on le voit à moto, mais si le pilote reprend de la place, eh bien on aura des erreurs, du talent, de l'audace, de l'engagement, et là aussi on voit une des interactions si tu veux de la fédération et de la direction de course qui sont beaucoup moins permanente qu'en Formule 1, c'est-à-dire qu'on peut commettre des erreurs, et il y en a eu des frictions entre Marquez et Rossi, on le parlait, mais on en parlait tout à l'heure, mais on ne sanctionne pas à outrance, et c'est une bonne chose.
Adrie, est-ce que la F1 aurait de quoi s'inspirer de la moto ?
Oui, après c'est un sport quand même bien différent, on est sur deux roues, les vitesses certes de pointe sont aussi élevées qu'en Formule 1, mais on passe très bien plus lentement en virage que quand on a quatre roues, et donc du coup on arrive à faire plus de différence et à se dépasser et à recroiser et surtout une moto prend beaucoup moins de place sur un circuit qu'une voiture, donc on peut très bien se mettre un 5 de front, c'est comme si on était à une voiture et demie de front, donc c'est difficile de comparer. Maintenant c'est sûr que ça n'enlève rien au débat, la F1 doit être il doit y avoir une refonte globale et on doit trouver des solutions. Pour moi la seule solution c'est de se rapprocher d'une formule qui soit plus monotone. type. Voilà.
Et ben, je vais te dire une phrase. Il faut sauver le soldat F1 d'abord, mais après trois choses. Moins d'aéro pour que justement les pilotes puissent se rapprocher et se dépasser. Des pneumatiques qui soient des pneumatiques performants, et là aussi avec une certaine dégradation, et le talent du pilote permet de gérer. Et puis des freins en acier, je réponds, et je sais qu'Adrien est d'accord. Et tu vas rallonger les distances de freinage, et tu vas avoir des très bons freineurs qui vont pouvoir, comme avant, dépasser au freinage, alors que là maintenant c'est impossible.
Benoît, un mot du Rally Raid du Maroc.
Oui, alors juste, on va juste signaler en Moto 2 et Moto 3, la victoire de Bagnaia en Moto 2, il se rapproche du titre de champion du monde lui aussi. On peut signaler la belle performance de Fabio Quartararo qui est cinquième. Ça fait longtemps que ça lui était pas arrivé, une si belle place.
Et qui monte en MotoGP, on le
exactement,
rappelle,
hein, il sera en MotoGP prochain. L'an prochain. Et juste en Moto 3, la victoire de l'Italien Fabio Di Giannantonio, effectivement, avec un titre qui se rapproche également pour Jorge Martin, l'Espagnol, qui est sur Honda. Effectivement, le rallye du Maroc avec, pour l'instant, Nasser Alatia qui est en tête dans la catégorie auto. Il a 15 minutes d'avance sur Cyril Després. On rappelle que Alatia est Toyota, ah, et que Després est lui sur un buggy mini, mais en tout cas il est déjà très performant avec son coéquipier toujours de toujours, Baumel le français, ouais. Donc ça va bien Mathieu pour Alatia au Maroc pour l'instant.
Ça, ce sont des noms qu'on retrouvera au Dakar au mois de janvier.
Évidemment. Inévitablement, des renards du désert.
Ouais, exactement.
Et en moto c'est pareil, Toby Price qui est leader, ouais. Et le deuxième c'est le vainqueur du dernier Dakar, Mathias Wagner, donc c'est pareil, on retrouve les cadors du Dakar au Rally Raid du Maroc.
Merci Benoît d'avoir été avec nous, merci Adri, merci Jean-Luc, Motors revient évidemment dimanche prochain à 13h, et puis la F1 revient dans 15 jours, hein. Ça sera peut-être le Grand Prix du titre
à Austin,
aux États-Unis, au Texas, en effet. Ça sera évidemment à suivre en direct sur RMC, la radio de la F1.
RMC Football. Samedi 4 mai à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine le 4 mai à Montpellier avec RMC.